3 qui vont suivre jusqu'en 2056. Voici déjà une première réflexion. Des sages ont décrit le monde comme une tragédie, une farce ou un tour de magicien. Mais tous, quand ce sont de vrais sages et non de simples forbans intellectuels, reconnaissent que c'est incontestablement une sorte de théâtre, ça vous l'avez déjà entendu, dans lequel chacun d'entre nous tient son rôle, la plupart du temps sans avoir reçu d'indication claire, ni pris connaissance du texte avant le lever de rideau. Et là j'introduis un des multiples personnages de ce livre, Rukma Fubar, qui se réveille, et c'est le début de l'histoire, à Nairobi, au Kenya, et qui, entre autres choses, est une sorte de sorcier, dont le passe-temps, un des passe-temps, est de piquer des aiguilles dans des poupées de chiffon, qui sont censées représenter les chefs d'État de certaines puissances. Et ces puissances sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais ça se sera raccordé à d'autres éléments plus tard, etc. Alors, voilà. Donc, Fubar est réveillé. Et on lui annonce, et c'est Saul Goodman, un autre personnage qui est un policier, qui va commencer à mener l'enquête avec son pote Barney Muldoon, parce qu'il y a eu un attentat, et là on est à New York, il y a eu un attentat dans une tour, et au 16e, 17e étage a explosé une bombe. Et ces locaux appartiennent au journal d'extrême gauche La Confrontation. Et donc, dans les débris de l'attentat et de l'incendie qui commence, ils trouvent une caisse dont ils s'emparent comme preuve. Et là, je suis mes notes puisque c'est très dense. Hein. Et entre-temps, on nous dit que depuis quelque temps, il y a une résurgence de troubles sociaux dus à des crises d'anxiété mystique et de délires psychiatriques et paranormaux. Donc, dans cette caisse, il trouve ces fameuses notes de cette fameuse patte, ou de ce fameux patte adressé à Joseph Malik, qui, apprend-on par la suite, a disparu depuis quelques jours, puisque son propriétaire s'est rendu compte qu'il avait laissé ses chiens seuls dans l'appartement.
C'est les mille et une nuits que tu nous fais là.
C'est les mille et une nuits de la conspiration. Alors, deux notes et ça en sera fini pour ce soir du projet Illuminati. Note numéro 1. Elle est datée du 23 juillet. C'est très important, les dates. La première référence que j'ai trouvée provient du « Violence » de Jacques Ellul, paru en 1969. Il est dit que les Illuminés furent fondés par Joachim de Flore au XIe siècle et qu'ils prêchèrent d'abord une doctrine chrétienne. Et de pauvreté et d'égalité, excusez-moi.
Oui, tu sembles avoir un petit problème technique.
Non, c'est mon fond sonore.
Ah.
Donc, je reviens. Joachim de Flore, au XIe siècle, et qui prêchèrent d'abord une doctrine chrétienne, donc j'ai dit de pauvreté et d'égalité, je me rattrape aux branches.
Parce que c'était voulu, ce fond sonore, avec des grafouillements, des gratouillements, c'était voulu.
Par la suite, au XVe siècle, sous la direction de Fra Dolcino, ils devinrent violents, pillant les riches et annonçant l'éminence du règne de l'esprit. En 1507, conclut le livre, ils furent vaincus par les forces de l'ordre, entre guillemets, à savoir une armée commandée par l'évêque de Verteuil. Il ne fait aucune mention, d'un quelconque mouvement des Illuminati au siècle précédent ou à une époque plus récente. J'en saurai davantage plus tard dans la journée. PS. J'ai trouvé quelques renseignements complémentaires sur Joachim de Flore dans les archives de la National Review. William Buckley et ses disciples le considèrent comme le père du libéralisme moderne, du socialisme et du communisme. Il le condamne en termes théologiques choisis. Il aurait commis l'hérésie, selon eux, de vouloir déclencher l'eschaton chrétien. Veux-tu que j'effectue quelques recherches dans un traité sur le thomisme ? Je crois que cela veut dire en gros qu'il aurait rapproché l'heure du jugement dernier. Et l'eschaton, c'est bien ça. Je vous trouve ma note, désigne l'objet de l'eschatologie qui concerne le discours sur la fin du monde. Ah, j'oubliais, très important, ces puissances dont j'ai cité les noms tout à l'heure ont failli déclencher la guerre parce qu'elles se disputent la territorialité du Nil, une île qui s'appelait l'île de Fernando Poo. En anglais, Poo avec un H à la fin, ça veut dire caca. Mm-hmm. Donc cette île qui désormais s'appelle l'île de Bioko se situe en face de la Guinée équatoriale, dans l'océan Atlantique. Elle fait partie de la Guinée équatoriale. Alors elle a été découverte en 1472 par ce fameux portugais Fernando Poo, ou Fernando do Poo. Bon, après, elle a une histoire très mouvementée. Les Hollandais sont passés là, se sont installés, des comptoirs anglais également, et des Espagnols. Elle a été espagnole, puis a été colonie espagnole, puis province espagnole, jusqu'à l'indépendance de la Guinée en 1968. Qu'y a-t-il entre autres d'intéressant dans cette île ? Ah, elle a servi aussi. Elle a été à un moment donné un relais dans l'esclavage, dans la route de la traite esclavagiste. Et par la suite, elle a été un des lieux où il y a eu un mouvement anti-esclavagiste. Qu'y a-t-il d'intéressant autour de cette île ? Eh bien, il y a des vastes champs pétrolifères offshore. Et la Guinée équatoriale est un des pays subsahariens les plus riches en pétrole. Je ferme cette parenthèse que j'avais oubliée. Comme je le disais précédemment, mes notes sont très denses. Allez, je vous fais juste la deuxième note, la note numéro 2, toujours datée du 23 juillet, toujours écrite par Pat et destinée à Joachim Malix. Malik. Joachim Malik, je ne suis pas sûr que ce soit. Joseph Malik, pardon. Ma deuxième source s'est révélée plus utile. Akron Darol, Les sociétés secrètes, 1961. Darol fait aussi remonter les Illuminati au XIe siècle, mais pas à Joachim de Flore. Il voit leurs origines dans la secte islamique des Ismaéliens, qu'on appelle également l'ordre des assassins. Ils furent vaincus au XIIIe siècle, mais effectuèrent un retour avec une philosophie nouvelle, moins violente, qui aboutit finalement à la secte actuelle des Ismaéliens, dirigée par l'Aga Khan. Toutefois, au 15e siècle ou 16e siècle, en Afghanistan, les illuminés, Roshinaya, renouèrent avec les méthodes originales de l'ordre des assassins. Ils furent balayés par une alliance de Mongols et de Perses. Mais je cite, « Le début du XVIIe siècle vit la fondation des illuminés d'Espagne, los alumbrados, condamnés par un édit de la Grande Inquisition en 1623. En 1654, l'illuminé Guérinet fit parler de lui en France. Et enfin, la partie qui t'intéresse le plus, les Illuminés de Bavière furent fondés le 1er mai 1767 à Ingolstadt, en Bavière, par Adam Weishaupt, un ancien jésuite. Des documents existants feraient apparaître plusieurs similitudes entre les Illuminés d'Allemagne et d'Asie centrale, des points qui peuvent difficilement passer pour de simples coïncidences. Les Illuminés de Weishaupt furent dissous par le gouvernement bavarois en 1785. Darol mentionne également les Illuminés de Paris dans les années 1880, mais laisse entendre qu'ils ne furent qu'une mode passagère. Il refuse d'accréditer l'existence actuelle des Illuminati.
Thank you.
The Post Non-Radio Show, show. The Post Non-Radio Show. Radio Libertaire. À l'instant, c'était The Black Dog. Et c'est ce disque qui va faire la transition entre 23h30 et minuit, l'heure d'arrivée du Sure-Shot Show. Puisque nous sommes le vendredi 1er, le premier vendredi
pardon,
du mois. Donc, The Black Dog, Radio Scarecrow, paru en 2008, une électro immersive, un peu sombre et mélancolique, de toute beauté. Ce disque qui est reparu cette année en 2023 sur le label Dust Science Recordings. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et à l'époque, ils étaient trois, ils sont toujours trois, Kendo Oui, mais il était avec deux autres membres qui sont allés former le groupe Plaid, qui est aussi un excellent groupe, qui fait aussi une électro vraiment très cool. Et là, il forme un trio avec les frères Dust, qui ont donc qui sont les boss du label Dust Science Recordings. Voilà l'épisode la semaine prochaine.
On attend la suite.
Oh ben j'espère bien. Hein,
je comptez par ton talent de conteur.
Voilà. Quoique, je peux mieux faire. Il faudrait que j'y mette un peu plus de profondeur et de tonalité pour hypnotiser les auditeurs
oui.
et les plonger comme ça les plonger comme ça dans l'ambiance et le monde de la conspiration. Voilà ce qui me manquait.
Ah ça
ah oui,
le petit pendule. Donc l'épisode numéro 2, la semaine prochaine.
Il est 22h50 minutes.
49. Je vous ai laissé sans voix.
Oui.
Non, j'attends un feu vert.
N'est-ce pas, Adi ? Tu es perplexe.
Ah oui.
Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Mais il sera question d'anarchie.
Ben oui, sans doute.
Également. Mais... parce que déjà dans la quatrième de couverture, il s'en réclame.
Oui, oui.
Oui, mais enfin, on peut s'en réclamer, mais...
Ils s'en réclament, ils le oui. disent, il n'y a qu'une seule liberté, l'anarchie.
Oui.
Et, mais après, on peut raccorder ça, il raccorde ça aussi au... Enfin, au discordianisme, il raccorde ça à la zanarchie. Oui. C'est l'anarchie, mais zen. Non. Via la méditation, alors il n'y a rien. Tu ne fais rien, tu n'as aucune implication sociale, aucune implication politique, surtout. Tu laisses faire les choses. Voilà.
Ben, c'est ce que tout le monde fait.
Ouais, mais ce n'est pas dans la zénitude.
Presque tout le monde.
C'est pas dans la zénitude. La zénarchie...
C'est très proche, quand même, là.
La zénarchie, c'est avec... le zen japonais, donc cette sorte de philosophie religieuse, enfin surtout méditative, mais on en reparlera parce que ça se raccorde à un tas de choses, c'est tentaculaire.
Et Illuminati, ça a été un mouvement, hein. Sur Internet, hein, je crois que...
On accuse maintenant, alors ça a commencé déjà il y a un moment, je dis pas au début d'Internet, mais presque, et avec X-Files, etc. Les Illuminati, c'est, entre autres, c'est les grosses sociétés, qui, surtout américaines, qui ont énormément de pouvoir. L'élite, les gouvernants, l'élite, la très haute bourgeoisie... on les a accusés, on les accuse encore d'être une société secrète qui serait donc les Illuminati.
Oui. Quand même, ça reprend pas mal quand même toutes les constructions qu'il y a eu du côté des francs-maçons, quoi.
Il y a de ça aussi. L'imagerie, la symbolique franc-maçonne...
Bah oui, le triangle...
Va apparaître, par exemple, dans énormément de clips de l'industrie musicale américaine et autres. Il y a Kim et Boaz, c'est les deux colonnes. Le sol carrelé noir et blanc. L'œil dans la pyramide avec les degrés.
Ouais.
Il en sera question. Il en sera également question... Mais enfin, moi, je tiens la source première. 1975.
C'est pas vieux.
Donc, c'est, oui, mais c'est bien avant tout ça.
Oui, et en plus,
bien avant tout ça.
Il parle de l'attentat, et dans une des tours, eh ben, il y a eu un attentat avec des tours.
Oui, mais là...
En 2001.
Oui, et là, c'est un attentat qui vise les locaux du journal d'extrême droite... D'extrême gauche, pardon.
D'extrême gauche,
oui. La confrontation. Excusez-moi pour le...
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé l'extrême gauche. Donc, mais on en reparlera, puisqu'il y a, également, je crois, de... Il faut, parce que je lis pas page par page, parce que j'essaye de trouver les définitions de tout ce qui se présente. Mmh. Il y a quand même énormément de détails. Voilà, la semaine prochaine, l'épisode numéro 2.
C'est captivant.
Oui, je sais. Oula.
Non, ça c'est juste ma montre qui a râpé sur le bord de la table. Non, ce n'est pas ce que tu crois.
On aurait dit un paix.
Oui, on aurait dit, oui.
Non, on aurait été soufflé sinon.
Serge, il rigole. Donc voilà. Yves, apparemment, a encore quelques petites choses à nous lire, éventuellement, toujours dans le canard enchaîné,
oui,
je pense.
Oui, il nous reste une bonne demi-heure avant de...
Il y a deux choses. Il y a une chose très courte, ça concerne un pavillon, celui de Marie Curie, qu'il est question de raser pour faire un nouvel immeuble beaucoup plus neuf, beaucoup plus grand, beaucoup mieux, etc., et surtout moins radioactif. Mais il y a des gens qui s'élèvent contre...
C'est pas du côté de l'Arcueil, ça ?
Non, c'est en plein centre de Paris.
Ah oui, parce qu'il y en a aussi par là, il paraît.
Et donc, il y a un mouvement, là, pour essayer de faire en sorte que cet immeuble... Enfin,
Oui, cet immeuble, oui.
Oui, cet immeuble, mais c'est plutôt une sorte de maison au milieu d'un jardin avec des arbres qu'elle a plantés elle-même, etc. Mmh. Marie Curie, donc, et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on devrait garder ce truc. Mais apparemment, c'est pas si simple à arrêter, mais enfin bon, on compte sur la ministre de la Culture. La ville de Paris, apparemment, s'est fait déborder parce qu'en fait, c'est plus un propriétaire, c'est une fondation qui possède ça. Et donc, c'est difficile, apparemment. Enfin, bref, il faudrait classer, empêcher de détruire. Monsieur Stéphane Berg a parlé.
Stéphane Bern, oui.
Il a dit Berg.
Non, il a dit Berne, j'ai entendu.
Admettons. Et a discuté ou en a parlé à monsieur Macron. il faut espérer que cette maison ne sera pas détruite, disons. C'est un bâtiment en briques jaunes.
Oui, mais enfin, il est radioactif.
Oui, c'est ce qu'ils disent aussi pour Arcueil. Il y a un lieu, il paraît qu'il est encore fermé et qu'il serait radioactif.
Ok, ben.
Je ne sais pas si tu veux le
racheter donc un cabinet de dentiste comme appartement, vous verrez ce qu'il vous reste. Il y a personne qui rentre dedans, simplement, c'est un endroit historique. Et donc, bon.
Ouais.
Ah bon, je voulais donc signaler ça. Moi, je sais pour le garder personnellement, mais s'il trouve que, puisque personne ne rentre dedans, parce que personne n'ose y rentrer.
Il y a une histoire aussi de l'immeuble qui serait construit à la place, qui dépasserait en hauteur, enfin, en tout cas qui priverait d'une bonne vue certains édifices. Donc on pourrait, ils ont pour projet d'avoir un bâtiment beaucoup trop haut, apparemment.
Oui, il est assez haut, effectivement.
Voilà.
Oui. Et puis sinon, j'avais un truc pour que les auditeurs gardent leur santé ou fassent gaffe à leur santé. Ça affiche les foies, l'année du foie gras, toujours dans le canard. 900 000 Français souffrent de la maladie du foie gras. Oui, c'est beaucoup, ça. Hein,
oui.
Une inflammation hépatique qui, sans la moindre goutte d'alcool ingéré, peut causer un cancer du foie ou une cirrhose. Voilà, je vais vous embêter 5 minutes avec ça, parce que ça m'amuse. D'après l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, donc l'INSERM, 220 000 de nos compatriotes auraient déjà une cirrhose non alcoolique ou seraient à deux doigts de se la déclencher. Le pire étant à venir, les spécialistes mondiaux de la maladie, qui se sont réunis en congrès à Paris en septembre dernier, estiment que le nombre de victimes aura doublé d'ici 2030. On est dans le pays de l'alcool quand même. Et là, il s'agit des maladies hépatiques, mais pas à cause de l'alcool. Donc la NASH, qui est l'acronyme anglais de stéatohépatite, autrement dit non-alcoolique stéatite hépatite. Bon, stéatohépatite non-alcoolique, en français donc. Mais je vais dire NASH à plusieurs fois, qui est l'acronyme anglais. C'est actuellement la deuxième cause de greffe du foie en France. C'est sur le point de détrôner les cirrhoses alcooliques et virales. Parce qu'en plus, il y a les virales, ça je ne savais pas, tiens. Cette épidémie qui sévit depuis plus de 40 ans, épidémie entre guillemets, est en grande partie due au gavage et au mauvais gras et en sucre. Pardon. Est dû en grande partie au gavage en mauvais gras et en sucre que nous impose l'industrie agroalimentaire. Sans oublier notre appétence pour les fast-foods, dont le nombre d'enseignes a quintuplé en 20 ans. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter à 25 grammes de sucre par adulte et par jour, les Français en ingurgitent 4 fois plus en moyenne, notamment en sirotant des sodas, 50,9 litres par an et par personne. Or, le foie fabrique encore plus de mauvais gras lorsque le sucre est ingéré sous forme liquide. Donc, achetez un jus d'orange, vous aurez un problème, alors que si vous mangez des oranges, vous n'en aurez pas. Les aliments ultra transformés, eux aussi, pèsent lourd dans la balance. Plus on en met dans l'assiette, et plus le danger grandit. Pardon. Une récente étude britannique menée sur 130 000 personnes vient ainsi de montrer que le risque de développer une maladie du foie gras est 43% plus élevé chez les plus gros consommateurs de plats transformés, avec une probabilité de fibrose hépatique ou de cirrhose augmentée de 18% et jusqu'à 50% pour les maladies hépatiques graves. Ça, ça vient de, excusez mon accent qui sera déplorable, American Journal of Clinical Nutrition. Nutrition. Bref, j'en rigole moi-même. 21-10-2023. Encore une fois, ce sont les plus pauvres qui trinquent. En France, la NASH frappe 79% des obèses, lesquels, selon l'Observatoire des inégalités, sont deux fois plus nombreux chez les ouvriers que chez les cadres supérieurs. De là à dire que les fabricants de malbouffe sont sans foi ni loi. Bon, voilà.
Ah, voilà, c'est un jeu de mots.
C'est le conflit du canard. Ils ne savaient pas comment terminer leur article. Le début suffisait largement.
Oui, c'est effectivement inquiétant, ce phénomène-là, parce que c'est... On fait attention l'autre fois pour la, contre la cirrhose, et puis finalement on aura une cirrhose du foie, même si on ne boit pas d'alcool, c'est incompréhensible.
Ben, il suffit de pas boire de jus de fruits, puis c'est tout. Quoi. C'est pas très compliqué.
Ben, des jus de fruits.
Tu bois pas de soda, tu bois pas.
Ben, ça dépend des jus de fruits. Des fois, il y a des jus de fruits qui sont 100% jus de fruits, c'est-à-dire jus d'orange qui est du 100% jus d'orange.
Oui, mais c'est pas le problème. C'est la façon de le manger, c'est pas digéré de la même façon. C'est, tu manges une orange, il y a encore la pulpe,
oui.
Et tu fais un effort pour la digestion,
oui.
Et c'est pas assimilé de la même façon par le foie.
Oui.
Si tu bois le jus de fruits, là, t'as un problème.
Ah,
à
d'accord.
Long terme.
Ok.
Donc c'est pas assimilé de la même façon. De même pour une pomme, tu manges une pomme ou tu bois un jus de pomme, rien à voir.
D'accord. Très bien.
Enfin, encore faut-il trouver des jus de pomme.
Oh, ça se trouve, hein.
Oui, dans le temps, tu trouvais des grandes bouteilles pour des sommes dérisoires, et brusquement, ça a disparu, et tu trouves des canettes, tu trouves des trucs avec des sucres ajoutés, etc.
Ah non, mais il y a des bouteilles de jus de pomme qui existent, il n'y a aucun problème, tu peux en trouver facilement. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on a ajouté des choses dedans ou pas, on ne sait pas. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire, en tout cas.
Bah. Dans les pommes, je pense qu'on n'a pas ajouté grand-chose et que leur pouvoir nutritionnel a beaucoup diminué d'après un reportage que j'avais vu sur des gens qui cultivaient des pommes en Israël. Et il y avait des études qui avaient été faites sur le pouvoir nutritionnel de ces pommes. En fait, par rapport à des pommes d'il y a une cinquantaine d'années, c'est 4 fois moins. Quoi. Tu manges 4 pommes maintenant pour avoir le même résultat sur ton petit intestin qu'une pomme dans le temps.
Mmh.
Bon. C'était mieux avant.
Non, ouais. C'est pas mieux avant, c'est une histoire de productivité de la terre, en fait.
Mmh. D'accord, de richesse de la terre, tu veux dire.
Bah, c'est-à-dire que la terre a été fournie une pomme avec des éléments nutritifs dedans, en quantité alpha, disons, et puis, ou alors elle t'en produit 4 avec des quantités nutritionnelles alpha sur 4 dans chacune.
D'accord.
Dans chacune.
Divisé par 4.
C'est un peu ça le problème, disons.
Mmh.
Alors, heureusement que nous avons le professeur Yves avec nous. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi?
Ok, j'arrête.
Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi?
Sinon, si vous voulez reprendre des trucs sur les pesticides, je peux encore, mais j'en ai un peu marre des pesticides.
Non, oui.
Mais c'est tellement bon.
Pesticides, glyphosate, l'asphalte et tout ça.
Ouais. Non, mais c'est un article que j'ai lu 2 fois parce que JLP l'a repris d'un article du Monde. Donc, il qualifie cette situation d'énorme farce des pesticides. Bon, et c'est surtout de l'argent. Je ne sais pas où il va cet argent, mais il est jeté en l'air, disons.
Par les fenêtres, on dit.
Ouais.
Par les fenêtres,
oui. Là, il dit en l'air. Donc, c'est en lisant son truc, ça m'a amusé.
De toute façon, pour le glyphosate, ça y est, c'est terminé, quoi.
Ah oui,
pour un an, c'est ça, hein.
Oh, pas pour plus.
Pour 10 ans.
Pour 10 ans.
Ah bon, je croyais que c'était pour un an.
Non,
que
pour
tous les ans,
ans,
ils se réunissaient.
Non, pour 10 ans.
Ils sont réunis en Europe, là.
Pour tout ça, pour que la SNCF...
Il y a des dizaines de jours, ils sont réunis en Europe ou...
Je ne sais pas.
Oui.
Mais
je crois que nous, on s'est abstenus.
Oui, c'est ça. Oui, la France s'est abstenue.
La France s'est abstenue.
Oui, c'est ça. Mais le reste... bon, voilà.
C'est-à-dire ne pas prendre de décision. Hein. On s'est abstenu. On laisse courir le...
Sarkozy avait promis en 2008 que l'usage des pesticides baisserait de moitié en 2018.
Oui.
Ensuite, il y a eu un beau plan Ecophyto qui allait tout régler. Ensuite, il y a eu Ecophyto 2, parce qu'en fait, les pesticides, au lieu de diminuer, ils ont augmenté. Puis, un plan Ecophyto 2+. Ce dernier a toujours pour objectif de faire baisser de moitié l'usage des pesticides, mais cette fois, à 2030, l'objectif est à 2030, et il se rapporte à la moyenne 2015-2017, et non plus 2008. Bon, et cette moyenne 2015-2017, elle est bien plus élevée que 15 ans avant, en 2008. C'est 7 ans, 8 ans avant. Donc les députés de la commission d'enquête parlementaire qui ont enquêté sur la question sont formels. Ces plans s'additionnent en pure perte. La France consomme aujourd'hui plus de pesticides qu'à l'époque du Grenelle. Pourquoi ? Parce que c'est le cadet des soucis du gouvernement successif. Un signe, un seul, le comité de pilotage interministériel ne s'est pas réuni une seule fois depuis 4 ans. Et aussi parce que entre décideurs politiques, agriculteurs, industriels et experts sanitaires, la pagaille règne. Le rapporteur a cette belle image, le plan Ecophyto est comme une voiture sans pilote, sans tableau de bord, qui circule sur une route sans radar et dont les passagers passent leur temps à discuter pour savoir si la direction est pertinente. Voilà, l'image vient du Monde du 22 décembre. Le Père Ubu s'interprète fort, vigoureusement, de rire sur la bedaine, ajoute le canard, surtout que la pompe à finance... elle marche du tonnerre pour 2019, année de référence, pas moins de 643 millions jetés en l'air. Ajoutez-y le milliard d'euros environ dépensés chaque année pour le traitement des eaux et les fermetures de captage d'eau pour cause de pollution qui se multiplient, plus de 4000 en 40 ans, dont près de la moitié ont été définitivement abandonnées. Vous reprendrez bien un petit verre de glyphosate ?
Oui.
C'est toujours le même JLP qui sévit. Bon, voilà.
Volontiers pour un verre de glyphosate. Tiens, ça me changera.
Moi, tout ce que je constate, c'est que tu profites d'une petite brèche dans la conversation pour, hop, nous lire un article.
Yes, sir.
Yes, sir. Musique.
We won't come quietly. le soleil. Je n'ai plus l'habitude, égoïste quand on est triste, jamais personne ne vous rassure. Souffrir, 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 quand on n'a rien vécu. Si je peux me satisfaire de cette vie de solitude. Mourir, 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 c'est la suite au prélude. Je ne veux plus. Je veux oublier. Les saisons passent, les gens me lassent, téléphone débranché. Je fais de bonnes quand je bois du noir. L'écran inonde toutes mes pensées. Et je tremble, je ne peux.
Est-ce que cela nous indiquerait-il que l'heure tourne ?
Oui, ça c'est évident. Hein.
Qu'il est 23h15 environ.
Oui, oui. Il reste un tout petit quart d'heure avant que nous passions au CD tampon, au CD qui fait la transition ce soir. Le CD conceptuel, c'est Radio Scarecrow de Black Dog. Enfin, tout du moins une partie, on s'est déjà entendu trois titres. Et alors on s'écoutera dans cette demi-heure les six premiers titres, en fait, si j'ai bien noté. Les six premiers titres sur 17, en fait. Oui. Guy.
Ouais, je vais parler de l'eau. C'est classique un peu, mais...
Ah bah ici, c'est classique.
Il y a tout un... Ah oui, méga bassine, centrale nucléaire, une même lutte contre un monde à détruire. mais parce que nous constatons chaque jour davantage la dégradation de notre environnement et de nos conditions de vie et que nous ne l'acceptons pas, parce que nous voulons détruire le système responsable de cette dégradation afin de construire une autre société libérée de l'exploitation capitaliste et des oppressions qui l'accompagnent. Alors si reprendre le contrôle de l'eau au tenant du capitalisme, c'est un enjeu majeur. L'eau est nécessaire à la vie, bien que dans des sociétés hyper-industrialisées, on ait tendance à l'oublier. Il nous semble important de mettre ici en évidence les limites qu'ont franchies certains acteurs politiques et économiques dans l'utilisation de cette ressource fondamentale. Les effets souvent réversibles sont qu'un tel choix entraîne et les difficultés que cette situation pose pour les luttes à mener. Alors le capitalisme et son système industriel ont besoin de l'eau. Jusqu'à présent, la question de l'eau a été peu présente en France et en Europe, dans les luttes sociales. Et pourtant, depuis la fin du 19e siècle, l'industrie nous a donné une idée de ce que l'avenir nous réserve si nous ne réagissons pas. Jusqu'à récemment, malgré les échos qu'en donnait la presse classique ou la presse militante, les combats pour l'eau étaient assez peu connus du grand public en France. Pourtant, comme l'eau est indispensable à la fois aux êtres humains et au système capitaliste, mais que c'est une ressource limitée, la recherche incessante de profit est forcément incompatible avec la vie des populations et ne peut avoir que de lourdes conséquences pour elles. On le constate en tout premier lieu, bien sûr, avec le réchauffement des règlements climatiques. Il bouleverse les équilibres de l'eau dans de nombreux pays, poussant par des sécheresses comme par les inondations aussi, qui entraînent des millions de gens à l'exode. La question des migrations est donc indissociable à celle de l'eau. Et ces réfugiés climatiques méritent notre solidarité quand la classe politique, y compris les responsables de la gauche, tient des discours du style « l'immigration est un problème compliqué, on ne peut pas accueillir tout le monde ». Ce n'est pas l'immigration le problème, mais bien le système industriel qui en est la cause. On constate également sans peine les dégâts de l'extractivisme. On peut citer par exemple l'accaparement de l'eau par l'industrie minière. Ainsi, depuis plus de 4 décennies, les immigrés du Maroc, voilà, ils ont fait une coquille, mènent une lutte contre l'extraction d'argent dans leur sous-sol. Les puits épuisent la nappe phréatique et la population, déjà privée d'eau. Cette population est confrontée en plus à la pollution, et à la répression policière. Rappelons que l'argent est utilisé dans l'électronique, notamment pour fabriquer certains produits, des produits phares donc de la transition écologique. On peut aussi citer le Chili, où malgré une sécheresse qui devient structurelle, l'eau sert à produire des centaines de tonnes d'avocats destinés à l'exportation, notamment vers la France, pendant que la population chilienne est obligée de se faire ravitailler en eau par camion-citerne. Alors plastique, textile, matériel informatique, batterie, on pourrait égrener longtemps. Les produits de la fabrication nécessitent une surutilisation de l'eau, une surutilisation qui, dans de plus en plus d'endroits, entraîne une pénurie pour les classes populaires, dans le même temps qu'elle enrichit quelques privilégiés. Donc le combat contre les méga-bassines a mis en relief l'importance vitale de l'eau. Voilà, bon, l'article est long. Ensuite, eh bien, il y a aussi un autre encart à l'intérieur de ce grand article qui est titré « Des pesticides empoisonnent l'eau du robinet ». Mais ça, bon, tu en as parlé déjà tout à l'heure aussi de l'eau. Hein,
Ça fait plusieurs émissions qu'il en parle. Hein.
Des PFAS.
Des pesticides, des glyphosates.
Parce que nous, on en a très peu de pollution encore, on peut dire, hein, peut-être, très peu par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre. Et que rien que déjà ce qu'on a un petit peu, on nous le cache. Voilà. Hein,
Des PFAS, apparemment, il y en a sur la région parisienne, simplement. Elles ne sont pas mesurées, mais elles sont partout. Donc pourquoi il n'y en aurait pas ici?
Suivant les doses qui sont marquées, on devrait ne pas y toucher, même cette eau-là.
Je crois qu'ils sont en train de faire des études sur Paris, mais je n'ai pas les sources là sous les yeux, donc je ne me rappelle pas. Mais je pense que l'eau à Paris, il vaut mieux... Moi, j'en bois pas, personnellement. Et j'en bois pas pour d'autres raisons. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des bactéries...
Il n'y a pas assez d'alcool dedans.
L'eau, elle est... Elle est contrôlée de façon à ce que certaines bactéries, comme Escherichia coli, etc., soient pas nombreuses, soient pas trop nombreuses. Mais c'est toujours une sorte d'équilibre entre le goût que l'eau va avoir et puis le fait qu'il n'y ait pas du tout de bactéries, quoi. Et en fait, il y a un peu de bactéries dedans, évidemment. Donc, non pas que l'eau soit dangereuse à boire, mais c'est toujours un équilibre. Tu ne peux pas avoir de l'eau qui sent l'eau de Javel à fond. À ce moment-là, il n'y a plus rien dedans, certes, mais ce n'est pas buvable. Ben bon, donc, il y a des choses qui...
En Espagne, tu as des villes. T'as des grandes villes où l'eau n'est pas potable. Par exemple, à Valencia, l'eau du robinet n'est pas consommable.
Mmh. Oui.
Elle est fortement, je ne sais pas si c'est javelisé, chloré, elle a un goût épouvantable. Donc, même si tu étais tenté d'en boire, non. Donc,
bon, à enfin, Paris, voilà. Jusqu'à maintenant, ils disaient qu'elle était potable. Maintenant, il y a le problème du face qui apparaît dans la région lyonnaise, par exemple. Toute la population semble contaminée, si j'ai bien compris. Les gens qui travaillent à Bordeaux dans les organismes qui s'occupent de l'eau disent qu'il va bien falloir dire quelque chose.
Ouais.
Guy, j'ai une question à te poser. On peut rappeler quel est le principe des méga-bassines ? Est-ce que tu sais ?
Alors, c'est des bassines qui retiennent l'eau.
Oui,
c'est des espèces de...
Ce sont des bassins, quoi. Des grands bassins.
Des bassins, comment dire...
Et pourquoi c'est controversé ?
Artificiel.
C'est controversé parce que ce n'est pas rempli avec de l'eau de consommation actuelle et tout. Ils vont chercher dans les nappes phréatiques en dessous. Ah oui, dans les sous-nappes phréatiques.
Oui, oui.
Et l'autre problème qui se pose et qui a été soulevé, c'est que cette eau, elle stagne, elle ne bouge pas.
Déjà, oui.
Donc, elle est à même de développer...
Des maladies.
Ouais. Des bactéries, des trucs, des machins, mm-hmm. qui alors contamineraient les cultures à laquelle elle est destinée.
Ensuite, il y a un autre problème, c'est pourquoi ces cultures auraient besoin de tant d'eau alors qu'avant elles sont passées. Ça, c'est du type de culture dont il s'agit. Donc,
oui.
C'est des cultures qui sont au niveau industriel très très avantageuses pour les gens qui les font, mais qui ont besoin de beaucoup d'eau. Et oui, donc, ça crée ce problème.
On leur fait des tarifs intéressants.
Donc le maïs ou des choses comme ça, et des endroits où il y avait éventuellement la polyculture ou des plus petites installations. Disons.
Exactement, oui. Et puis il y a l'évaporation. Voilà.
Alors,
il y a pas mal d'évaporation aussi d'eau. Oui. Donc, voilà.
Bah, on a terminé quasiment.
La musique alors.
Pourquoi on arrête la musique ?
Yeah.
de poste. Je suis affalé. Affalé dans le fauteuil. De poste non radio show, radio libertaire. C'est fini pour les blablas ce soir. On enchaîne avec, dans moins d'une petite minute, The Black Dog, Radio Scarecrow. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Henrik.
Bonsoir, bonsoir.
À la semaine prochaine.
Salut, Henrik.
Bonsoir, Guy.
Au revoir,
Henrik. Bonsoir.
Au revoir, les auditeurs et les auditrices.
Bonne nuit à tous.
Et à toutes.
Voilà. Et on vous laisse en compagnie de Chourchotte dans une demi-heure.